Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio une femme qui a décidé de troquer ses crampons contre un micro. Vous avez copieusement applaudi cette défenseur lorsqu'elle portait le maillot du Paris Saint-Germain. De 2008 à 2018, elle a défendu également nos couleurs en équipe de France. Elle a même remporté d'ailleurs la mythique Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Et désormais, elle offre aux supporters ses analyses et commentaires depuis le bord de terrain et la tribune presse. Bonjour Jessica Ouara.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Alors, Babyfoot, 9 mois dans la vie d'Amel Majri. C'est le titre du documentaire que vous avez réalisé. Il sera diffusé sur Canal Plus Foot ce dimanche 5 février à 12h15. Vous y abordez le sujet de la maternité chez les footballeuses professionnelles. Déjà, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de faire ce film ?
En fait, ce qui m'a motivée, c'est mon expérience personnelle.
Ouais.
Quand je jouais, j'étais l'une des seules joueuses en activité mariée en équipe de France, notamment. Et tout le temps, on me disait, allez, Jess, lance-toi, fais un bébé, sois la pionnière, sois la première, ouvre la voie. Ouais. Et j'avais peur. J'avais peur de plein de choses. J'avais peur de mon avenir, j'avais peur de ce qui allait être mis en place par le club. Est-ce que le club allait être accepté, pas accepté, la sélection, retrouver ma place, plein de craintes. Et donc, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé. J'ai eu mes enfants après ma carrière. Et Amel Majri a osé. Ah. Amel Majri, première internationale française à avoir un enfant en activité. Et en fait, je me suis dit, mais il faut qu'on la suive. Il faut qu'on fasse un constat, un état des lieux de la maternité dans le football féminin en France, mais aussi en fait, dans le sport féminin en général. C'est ouvrir des voies, voir ce qu'il en est, voir l'état et voir ce qu'on peut faire aussi, quoi.
Alors, c'est quoi l'objectif de ce documentaire ? C'est vraiment un état des lieux ou bien c'est de dire aux femmes qui sont en activité professionnelle dans le monde du sport, allez-y, foncez, c'est possible de faire un enfant et d'être encore joueuse de football, par exemple ?
Les deux. En fait, les deux, c'est de démocratiser un petit peu tout ça, que les sportives, les footballeuses osent, en fait. On le voit outre-Atlantique ou dans d'autres pays, c'est quelque chose de normal, de naturel, dans les pays nordiques notamment. Et nous, en France, il y en a encore trop peu, mais je pense parce qu'elles n'osent pas, comme je n'ai pas osé à l'époque où je jouais. Et donc, le but, c'est de montrer que c'est possible, que c'est faisable, de montrer au club aussi que ça se fait et que c'est tout à fait possible et que la joueuse est dans un état d'esprit très positif quand elle revient de tout ça. Et donc, du coup, c'est de montrer ça, mais montrer aussi que c'est difficile, parce qu'on va le voir dans le documentaire avec Amel et avec les autres joueuses qu'on voit dans le documentaire, que ce n'est pas facile d'être maman, d'être joueuse et de retrouver son niveau. Ouais. Mais voilà, que c'est possible et qu'il faut oser et qu'il faut le faire.
Et c'est passionnant, c'est un beau sujet. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. On va bien sûr parler donc de ce documentaire, mais également de votre rôle de consultante sur Canal+. Mais tout d'abord, voici les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Bonjour Damien, bonjour Jessica.
C'est parti avec les news médias et donc le retour de Koh-Lanta sur TF1. Et ça y est, vous pouvez nous donner la date.
Le jeu d'aventure de la Une reviendra le 21 février prochain. 21 février qui tombe un mardi, car désormais, la Une préconise ce jour pour proposer Koh-Lanta aux téléspectateurs. Alors baptisé le feu sacré, cette nouvelle saison sera intense, étonnante et surprenante, selon les mots de Rémi Faure, qui est le directeur des flux de la chaîne. Alors c'est une saison pour laquelle Denis Brognard risque de pas vraiment promouvoir, puisque accusé de harcèlement moral par plusieurs personnes, il s'est récemment excusé publiquement.
Est-ce que quand on est sportive, on rêve de participer à une émission comme Koh-Lanta ?
Oui. mes nièces aimeraient que j'y participe.
C'est
mais
vrai.
Dans cette saison, il y aura une footballeuse qui sera dans...
Ah, c'est
oui,
vrai.
Et elle est parisienne.
Elle joue à Fleury, elle est ex-internationale française.
Ah,
enfin,
oui.
Elle est encore en activité, donc elle peut encore à nouveau être
appelée. Ah oui, donc
Julie de Bever,
bientôt footballeuse. Votre tour, alors.
Ah, pourquoi pas.
Il y avait eu une spéciale sportive avec Taï Chris, notamment.
Ah oui, absolument.
Donc ça, vous demandez ça à la production de Koh-Lanta, ouais, de refaire une saison de sportive.
Ah, pourquoi pas, mais en tout cas, on a une footballeuse qui joue encore qu'en activité, qui est dans notre D1 Arkema et qui va faire cette saison de Koh-Lanta. Julie de Bever.
Ah oui, là aussi, il faut bouger les murs parce que j'imagine que le temps d'entraînement est assez prenant. Faire Koh-Lanta, c'est aussi très, très compliqué en termes d'emploi du temps. Donc, on a hâte de découvrir ça, en tout cas.
Oui, 21 février.
Allez, on va terminer ces infomédias tout de suite avec le chiffre du jour, Sarah, c'est 825.
Et oui, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs rassemblés devant Face à Baba. C'est un nouveau numéro présenté par Cyril Hanouna avec Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, en invité principal. Alors, ça représente 4,6% de part d'audience. Il s'agit du plus faible score du talk show de C8. Alors, le 20 octobre dernier, il faut rappeler qu'ils étaient un peu plus d'1 200 000 curieux devant le numéro qui accueillait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Est-ce que ce sujet de la retraite, c'est une vraie inquiétude pour vous lorsque vous pratiquez ce sport?
Oui, forcément, c'est un sujet d'inquiétude, dans le sens, en plus de ça, où il faut tout prévoir, nous, avec à l'heure actuelle... Ce qu'on gagne quand on joue au foot, il faut prévoir l'après-carrière. On a une vie avant, on a une vie après, ouais. Il faut retravailler après. Donc forcément, ça nous touche.
Est-ce que ce que vous gagnez lors de votre carrière professionnelle sportive ne vous permet pas ensuite de vivre des jours heureux jusqu'à la fin de vos jours?
Non, pour certaines, peut-être un peu, si elles font des bons placements, etc. Ouais. Mais pour, on va dire, 90% des joueuses, non, il faut avoir quelque chose derrière. Ouais.
Malgré tout, on constate quand même que le football féminin évolue. On voit que les matchs maintenant sont diffusés sur des grandes chaînes, Canal+, TF1 aussi. Est-ce que le niveau de rémunération augmente au fur et à mesure que la médiatisation progresse?
Un petit peu. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas mon métier. J'ai été professionnelle qu'à 25 ans. Donc, on voit que ça permet aux filles aussi, petit à petit, de pouvoir en vivre. Maintenant, on est dans un championnat, la DRKMA, qui est diffusée sur notre chaîne Canal+, où toutes les joueuses ne sont pas professionnelles, toutes les équipes ne sont pas professionnelles. Mmh. Et donc, du coup, ça pose un souci aussi d'équité entre les joueuses. On a des gros clubs, des Locomotives, Lyon, le Paris Saint-Germain, où les joueuses sont totalement professionnelles et toutes les joueuses de la section bénéficient d'un contrat. Mais ce n'est pas pareil dans tous les clubs de l'AD1. Ouais.
Vous-même, vous n'avez pas été professionnelle tout de suite.
Non, j'ai dû travailler avant et j'allais le soir à l'entraînement. Pour aller en sélection, je prenais mes RTT, mes jours de congé au travail. Donc, c'est mieux. Il y a beaucoup de progression dans tout ça, mais il y a encore plein de chemin à parcourir.
Et vous exerciez quelle profession parallèlement à votre carrière?
J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été secrétaire médicale, j'ai été éducatrice sportive. J'ai fait beaucoup de choses, ouais.
Ah oui, donc ça peut être aussi même physiquement compliqué. Quand vous êtes éducatrice sportive et que derrière, vous devez en plus aller à l'entraînement, il faut conjuguer tout ça, ça doit
exactement,
pas être simple.
Mais bon, on l'a fait. Pour nous, c'était normal. À l'époque, c'était pas professionnel. Et pour nous, c'était quelque chose de totalement normal.
Alors, Canal+ Foot diffuse votre documentaire baptisé « Baby Foot, 9 mois dans la vie d'Amel Majri » ce dimanche 5 février à 12h15. La grossesse dans le sport, c'est vrai que c'est un sujet dont personne ne parle. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont, que ce soit d'ailleurs dans le football ou dans d'autres disciplines. Comment expliquez-vous que ce sujet soit à ce point tabou? Parce que c'est quand même quelque chose qui doit, en tout cas, être un véritable sujet qu'on doit mettre sur la table régulièrement et on n'en entend pas parler.
On n'en entend pas parler parce que je pense que pour la sportive, le corps, c'est l'outil de travail. Et donc, du coup, on sait très bien que quand on est enceinte, on met tout ça entre parenthèses. On ne sait pas comment ça se passait. C'est assimilé parfois à une longue blessure, en fait, très concrètement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on en voit très peu aussi. Mais en fait, on ne se rend pas compte, c'est que pour qu'une sportive de haut niveau soit dans les meilleures conditions pour jouer, il faut que mentalement, elle soit aussi dans les meilleures conditions. Et pour beaucoup... Être maman, ça fait partie de la vie, c'est une envie. Et mine de rien, de mettre ça de côté, on n'est pas totalement épanoui. Et quand on n'est pas totalement épanoui en dehors, généralement, sur le terrain, ce n'est pas toujours parfait.
Et alors, vous suivez le parcours d'Amel Majri, qui est la première internationale française à être devenue maman en pleine activité. Est-ce que ça a été difficile de la convaincre de participer à ce documentaire?
Honnêtement, pas du tout. Et on sait qu'Amel... C'est un sujet qui lui tient à cœur, notamment participer avec le ministère sur la charte mise en place pour la grossesse, la maternité pour les sportives. Donc non, ça n'a pas du tout été un problème. Bon, le fait que forcément j'ai joué avec elle en sélection, en club, ça aide aussi. Oui. Ikram Tikesh qui fait aussi le documentaire avec moi, elle avait déjà suivi sur d'autres projets pour Canal+. Donc du coup, elle était aussi en confiance avec Ikram. Donc tout ça fait qu'au final, tout était réuni et elle a accepté très rapidement et tout de suite en fait.
Et tout de suite. Alors très concrètement, comment avez-vous construit ce documentaire? Vous l'avez vraiment suivi dans sa sphère privée et professionnelle pendant 9 mois, c'est ça?
Oui, oui, un peu des deux. En fait, on est parti de sa reprise un tout petit peu avant, un tout petit peu après, surtout après, en fait, au final. Comment elle revient sur le terrain, comment elle s'organise aussi dans sa vie de maman et dans sa vie de sportive de haut niveau, parce que ça chamboule tout pour elle aussi. Ouais. C'est un nouveau rythme, c'est autre chose, d'autant plus qu'en plus, c'est une maman allaitante, donc il y a aussi d'autres contraintes quand on allaite. Mmh. Donc, en fait, tout ça fait que on a suivi en fait chaque étape, grosse étape de son retour, le retour à l'entraînement d'abord individuel en salle, le retour à l'entraînement collectif, ses premières minutes de jeu, d'où tout ça, en fait, mis bout à bout, fait le documentaire, même si on suit aussi en parallèle. C'est notre fil rouge, mais on suit en parallèle d'autres personnes.
Et après avoir tourné ce documentaire, est-ce que vous avez ressenti des regrets en vous disant « Ah ben en fait, j'aurais pu le faire. Moi aussi, j'aurais pu être maman pendant ma carrière professionnelle. »
En fait, ça a toujours été un petit regret, hein, parce qu'on a envie... Moi, j'aurais aimé que mes enfants me voient sur le terrain, parce que ça a été ma première vie, entre guillemets, j'ai envie de dire. J'en ai une autre maintenant. Alors, ma fille qui a bientôt 3 ans, elle se rend compte que c'est maman à la télé quand je passe à la télé sur Canal+, mais elle aura des vidéos, on lui montrera des vidéos, mais elle n'aura pas vécu ce truc de maman sur les terrains de foot. Ouais. Quand je voyais les copines avec leur neveu et nièce qui les voient sur un terrain, on les amène, j'aurais aimé qu'il y ait ma fille. Donc, voir Amal vivre ça... Ouais, j'aurais aimé le vivre aussi, ouais.
Et parlons un peu des droits, ce qui est alloué pour les sportives. En 2020, la FIFA a pris une mesure pour protéger les joueuses de football durant leur grossesse. Les joueuses peuvent bénéficier d'un congé maternité de 14 semaines, dont 8 après la naissance de l'enfant, et ont l'assurance d'être réintégrées à l'équipe. Est-ce qu'on a constaté un pic de naissance chez les joueuses depuis cette mesure ?
Oui, ça rassure, comme je le disais. Moi, j'ai pas osé parce qu'aussi, il y avait ce flou-là. On savait pas où mettre les pieds.
Il y avait pas le
droit. Il y avait aucun droit. Donc, juridiquement parlant, on sait très bien qu'une footballeuse, au bout de 3 mois, elle peut plus exercer son métier. C'est pas, on peut pas, on n'est pas dans un bureau où jusqu'à 7 mois, 7 mois et demi, parfois, on peut l'exercer quand on est maman ou en congé, jusqu'au congé maternité. Là, c'est pas le cas. Donc, il y avait un gros flou. On savait pas où mettre les pieds. Donc, forcément, ça fait peur. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu peur de pas le faire quand j'étais en activité footballistique. Et donc, du coup, là, je pense que ça rassure aussi d'avoir des droits, que ça soit écrit. Ouais. Et donc, du coup, ça rassure les joueuses qui osent peut-être un peu plus.
Mais c'est vrai que vous le rappeliez, quand on est footballeuse, votre corps, c'est votre outil de travail. Or, quand une femme est enceinte, c'est vrai que son organisme est bouleversé, c'est peu de le dire, par tout un tas de phénomènes qui, à première vue, rendent difficile la pratique d'un sport de haut niveau. Comment Amel Majri a-t-elle fait pour conjuguer sa carrière et la grossesse ? On imagine que c'est quand même très compliqué. Déjà qu'être sportif de haut niveau, c'est intense. Alors, en plus, être enceinte, ça doit être encore plus difficile.
Oui, bah déjà, c'est essayer de se maintenir quand même un petit peu en activité pendant la grossesse, qu'elle a fait au maximum.
Ah oui. Et puis, jusqu'à quand
en fait, moi, je vais prendre mon cas personnel. J'ai pu courir jusqu'à 3 semaines avant d'accoucher. Ça dépend aussi
ça
dépend des corps.
Ça dépend, bien sûr.
Ça dépend de plein de choses. Chaque grossesse est différente. Mm-hmm. Mais quand c'est bien encadré et bien suivi, Amel a pu faire beaucoup d'activités physiques jusqu'à très tard. Donc, ça permet aussi de se rétablir un peu mieux. Ça dépend aussi de l'accouchement, si c'est par voie basse ou par césarienne, parce que ce n'est pas le même temps de rééducation. Il y a 2-3 semaines qui se séparent.
Oui.
Et puis après, forcément, c'est prendre en compte que le corps de la femme a changé, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, petit à petit, réintégrer tout ça.
Et comment elle a fait ? Elle a fait plutôt privilégier une césarienne plutôt que...
Non, c'est... Il n'y a pas de privilège. Au final, ça s'est fait comme ça s'est fait. Il n'y avait pas de... Avant, il faut que ça soit une césarienne, il faut que ça soit par voie basse. Ça s'est fait naturellement comme une femme normale, en fait, tout simplement. Ouais.
Alors, c'est vrai que vous aviez parlé, Sarah, des nouvelles règles de la FIFA. Hein. Et c'est vrai que les mères sont mieux accompagnées à leur retour en club. Et c'est ce que vous avez filmé en partie dans ce documentaire. Je vous propose de découvrir un extrait.
Ça va, et toi ?
Ça va.
Coucou.
Coucou.
Ça va ?
Ouais.
C'est une source de motivation en plus qui vient s'ajouter à mon cadre de motivation, on va dire.
Il y en a trop des doudous et je sais pas lequel lui donner.
Tu veux pas lui en donner un ?
Je vais lui en donner un parce que normalement le doudou, genre, elle le lâche pas, genre c'est tout le temps le même. Mais lequel choisir ? Il y en a plein.
J'ai hâte de retrouver le groupe entier et une séance entière.
Ouais, stabilisant. Ok, pour ce périnée. Ok, c'est parti.
En fait, tu sais que tu vas souffrir. Sur l'instant T, tu sais ce qui te tient, c'est la tête. Donc, serre les dents et après, ça va payer.
Super, Ahmed. Yes, stop. Yes.
Oui.
Elle veut dormir?
Ouais, elle s'arrête de pleurer.
Ok, il faut la bercer. Et la Joanne, il sait bien faire. Allez, on joue.
On voit que c'est intense, hein, ce retour en club. Quelles sont les principales difficultés qu'Amel Majri a dû surmonter après cette grossesse et ce retour au plus haut niveau ?
La double difficulté, c'est qu'elle revenait aussi d'un ligament croisé. Donc, en fait, elle a profité de cette pause blessure pour faire son enfant. Donc, il y avait double retour, entre guillemets. Et donc, la difficulté, c'était de l'organisation, surtout, comment gérer avec sa fille. Surtout qu'au début, sa fille était présente. Et après, elle a eu la nounou que à partir de novembre, parce que c'était, elle voulait quelqu'un proche d'elle et quelqu'un qu'elle connaissait pour pouvoir être nounou, même si le club voulait lui mettre à disposition une nounou, mais elle voulait choisir sa nounou. Donc jusqu'à novembre, on voit sa fille qui est là. Du coup, elle l'attend pleurer. Donc pour se concentrer pleinement sur son activité, quand on a sa fille à côté, quand on lui dit qu'elle est en train de pleurer, c'est pas facile. Donc ça a été difficile pour elle, et puis retrouver son niveau, parce que en fait on a l'impression que tout va revenir vite, mais on se rend compte en fait que c'est difficile, c'est difficile de conjuguer les deux.
Et d'ailleurs, c'est possible de revenir au meilleur niveau, à son meilleur niveau quand on vient d'avoir un enfant?
Oui, c'est possible. On le voit. Amel en est un exemple. Elle a fait ses premiers pas avec l'équipe de Lyon il y a pas longtemps. On voit, il y a beaucoup d'exemples. À Fleury, on en suit. Il y a trois mamans à l'équipe à Fleury en Arkema qu'on va voir aussi dans le documentaire. Elles ont repris le haut niveau, le plus haut niveau en France aussi, alors qu'elles sont mamans. On en voit aussi outre-Atlantique aux États-Unis, donc oui, c'est possible.
Elles travaillent deux fois plus, non, que leurs camarades ou...
Non, elles travaillent comme quelqu'un qui doit reprendre après une blessure, même si je n'ai pas envie de comparer un enfant à une blessure, parce que c'est un heureux événement.
Ouais. Bien sûr, bien sûr.
Mais en gros, on sait que physiquement, on perd, comme lors d'une blessure, et donc du coup, il faut qu'elles redoublent d'efforts pour retrouver physiquement le niveau. Mmh. Et puis après, ce qu'il y a à gérer, c'est le manque de sommeil, parce que les nuits de bébé sont compliquées, et on sait très bien que la récupération... Dans le sport du niveau, c'est très important. Là, on mange quand on peut en manger, à l'heure qu'on peut manger parce qu'il y a l'enfant. Ouais. Voilà, une vie de maman normale, en fait, tout simplement. Donc, il y a tout ça à prendre en compte.
Là, je me mets à la place du téléspectateur qui a découvert cet extrait particulièrement émouvant et qui a envie de voir ce documentaire, mais qui malheureusement sera en train de partager un déjeuner avec sa belle-mère le dimanche à midi et quart. Quand on peut le voir, ce documentaire, si on n'est pas devant sa télé sur Canal+, Plus
comme... tous les documentaires, ça sera rediffusé plus tard. Et puis, dès l'instant, il y a un documentaire sur Canal, il est sur MyCanal,
qu'on
peut retrouver à tout moment, à chaque fois, comme n'importe quel documentaire. Donc, il faut juste aller sur MyCanal et puis aller voir ce documentaire dès dimanche après-midi.
Alors, Jessica, vous avez pris votre retraite. Hein. Vous, c'était en janvier 2019. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de rejoindre les médias en tant que consultante?
Alors, ça avait commencé quand je jouais déjà, quand j'étais en région parisienne, quand j'étais au PSG. Je faisais de la radio, je faisais un peu de télé aussi. Au tout début, si on m'avait dit que j'allais être dans les médias, j'y aurais pas cru il y a beaucoup d'années parce que j'étais très timide. Et avec la sélection, obligée de faire des interviews, et pas le choix. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien, que j'aimais aussi, j'aimais parler de foot, que ça ne me posait pas de soucis. Et donc, du coup, petit à petit, le chemin a fait. On m'a proposé des choses quand j'étais sur Paris. Et après, Canal est arrivé et voilà.
Et vous faites beaucoup de choses. Vous êtes au bord du terrain parfois. Vous êtes aux commentaires également en tant que consultante. Dans quel exercice vous vous épanouissez le plus?
La chance que Canal me donne, c'est de faire plein de choses différentes. Ouais. Et c'est en ça que je m'épanouis aussi. Mmh. C'est de pouvoir faire des émissions un peu plus posées, toujours en direct, de faire du bord-terrain, de faire du commentaire. En fait, de toucher à tout, c'est ce qui m'éclate, d'être cantonnée dans quelque chose. Et maintenant, il y a le doc aussi, en plus, qui est rajouté à la palette. Donc, tout ça, vraiment, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis particulièrement. Donc, de faire justement plusieurs choses et que Canal me permette ça, c'est vraiment top.
Alors, on l'a vu, être une femme dans les médias, ce n'est pas forcément évident, surtout dans le milieu du sport. La preuve encore avec les récents témoignages d'Anne-Laure Bonnet, et de Charlotte Namura qui ont pointé du doigt le comportement de Denis Brognard, on en parlait tout à l'heure. Vous, est-ce que vous avez déjà été victime de gestes déplacés dans votre métier de consultante?
Non, honnêtement, pas du tout.
Ou témoin?
Non, vraiment même témoin, pas du tout. Après, je pense... la journaliste et la consultante, elles n'ont pas la même approche. On ne les approche pas de la même manière. Je pense que mon passé de joueuse professionnelle m'aide aussi dans tout ça, parce qu'on ne me regarde pas comme la journaliste qui arrive et qui ne connaît rien, alors que pourtant, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de journalistes femmes dans le monde du sport qui s'y connaissent sans avoir été internationales ou autres. Mais je pense que le rôle de consultante, on le regarde aussi peut-être différemment de l'extérieur. Et donc, du coup, je n'ai jamais eu tout ça. Les accueils qu'on a un petit peu bizarres, c'est comme tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'on est une femme, on est pointé du doigt parfois, mais c'est tout. En tout cas, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis du monde de la télé, du monde des médias, aucun problème là-dessus.
Une dernière question, Jessica Ohara, avant de passer devant notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Un audit de la Fédération française de football diligenté à l'automne dernier par le ministère des Sports vient de rendre ses conclusions. Vous voyez où je veux en venir, c'est par rapport à Noël Le Graët, qui n'aurait plus la légitimité pour administrer le football français. C'est en tout cas ce qui en ressort. Alors, on rappelle que, que le dirigeant actuel est accusé de harcèlement sexuel et il a tenu également des propos assez douteux vis-à-vis de Zinedine Zidane. Est-ce que, selon vous, Noël Le Graët doit démissionner ou bien il a encore sa place à la tête de la Fédération française ?
Pour moi, il doit démissionner. Ouais. N'importe quel président, n'importe quelle fédération... dans ces cas-là, doit démissionner. On le voit, ça fait plusieurs fois en termes de com. C'est catastrophique. Dans ce qu'il dit, c'est lunaire. On a l'impression qu'il est hors sol. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, il doit démissionner. Et encore plus quand on est la plus grosse fédération en France.
Et absolument. Qui pour le remplacer, selon vous, si vous aviez le choix ?
Oh, c'est compliqué.
Si on vous demandait votre avis.
C'est compliqué. Pour moi, il faut une vraie réélection totale. Il faut que ça soit fait correctement. Après, donner un nom comme ça...
Bah vous, Jessica Ouara.
Ah, allez-y.
Franchement, porte candidate.
Tout de suite. Hein.
Jeune, bah ouais, c'est en ça, pleine avec, activité. Ouais.
Exactement, avec de bonnes idées, très certainement. Allez, bah justement, on va vous poser des questions sur votre, sur votre carrière et vos projets. C'est dans notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Alors, on va vous poser quelques questions en lien avec votre carrière, bien évidemment. Déjà, quel est le meilleur souvenir que vous avez au cours de votre parcours, que ce soit comme footballeuse ou comme consultante ?
Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France à Angers, au stade Raymond Coppa. Je suis d'Angers, j'allais avec mon papa, avec mon frère, voir les matchs d'Angers quand ils étaient en Ligue 2 à l'époque. C'était quelque chose. Et là, de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France sur ce terrain-là, devant toute ma famille, c'était, je pense, c'est la seule Marseillaise où j'ai eu les larmes aux yeux. Et alors, j'ai gagné des titres et tout ça, mais je pense que ça, c'est le moment le plus magique de ma carrière.
Ouais. Et quel est votre pire souvenir de carrière ?
Mon pire souvenir, la défaite en Ligue des Champions avec le PSG en 2015, ça a été très difficile à vivre. Et aussi les défaites avec l'équipe de France, notamment en 2015 au Canada. Deux défaites en 2015, décidément en club et en équipe de France, en quart de finale face à l'Allemagne, parce que je pense qu'on peut aller très loin.
Alors on vous a taquiné par rapport à la Fédération française de football, mais est-ce que vous aimeriez devenir entraîneuse, par contre, à défaut d'être présidente de la FFF ?
Eh bien, à l'heure actuelle, alors il ne faut jamais dire jamais, mais pas du tout.
C'est vrai ? Ça ne vous donne pas du tout envie ?
Non, parce que si aussi j'ai arrêté ma carrière, c'est que j'avais envie d'avoir une vie un peu plus stable, un peu plus posée, pouvoir profiter de ma vie de famille, de mes amis et de mes enfants. Et quand on est entraîneur, c'est encore pire que quand on est joueur. Ouais. Donc du coup, à l'heure actuelle, pas du tout, non.
Et c'est une question récurrente qu'on a repérée chez nos internautes de tvmac.com. Pourquoi ne portez-vous pas votre turban à l'antenne ?
Je ne sais pas.
C'est vrai ?
Non. Ça vous va très bien.
C'est gentil, c'est gentil, merci beaucoup. Je ne sais pas, à voir, on en discutera.
Ah, c'est en discussion ?
Pas du tout, pas encore.
Il vient d'où d'ailleurs ce turban, ce style ? Vous êtes identifié par rapport à quelqu'un, un idole
Non, pas du tout, c'est par conviction religieuse.
D'accord, d'accord.
Ah oui, d'accord.
Mais ça vous va très bien.
Merci.
Franchement, c'est vrai que ça vous... En plus, ça vous rehausse le teint, je trouve.
Ah, voilà.
C'est vrai que c'est un peu Christina Cordula qui vient de parler. Et une dernière question qu'on voulait vous poser, en regardant tous ces matchs de football, en analysant le sport, etc., est-ce que parfois, vous mourrez d'envie de rechausser des crampons ?
Eh bien, paradoxalement, pas du tout.
C'est vrai ?
Non, alors j'adore jouer, faire des fives avec mon mari, mes amis. J'en ai encore fait un lundi soir. Ah. Mais le haut niveau, ça ne manque pas du tout. Et pourtant, je suis sur les bords des terrains tout le temps et j'ai pas envie d'être à leur place.
C'est vrai ? Et quand vous avez pris votre retraite sportive, à aucun moment, ça vous a manqué, même dans les semaines qui suivaient ?
Non, parce que je pense que j'ai eu la chance de tout de suite basculer avec Canal. J'avais commencé déjà mon après-carrière pendant. Et donc, du coup, d'avoir basculé, d'avoir tout de suite quelque chose dans lequel je me plaisais en tant que consultant à Canal+, je pense que ça aide aussi à passer à autre chose. Et ça veut dire que j'étais prête, parce que comme j'ai eu aucun regret, je pense que c'est que j'étais prête.
Bien, et on aura plaisir encore à vous suivre sur Canal+. Alors, merci beaucoup, Jessica Ouara, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Canal+ Sport diffuse donc votre documentaire que vous avez co-réalisé, qui s'intitule « Babyfoot, 9 mois dans la vie d'Amel Majri ». Ce sera donc ce dimanche 5 février à 12h15. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci
Sarah.